Invité Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne, et le docteur Bertrand Guillouillet, qui est médecin directeur de la MDA de la Sarthe, à venir nous parler d'une nouvelle forme d'accompagnement et de prévention sur Internet, avec l'exemple des promeneurs du net.
Bonjour. Le lien est tout trouvé avec l'intervention précédente. Et puis, je crois que dès hier, vous avez déjà entendu parler de la Maison des ados de Marseille, qui est une organisation un peu différente de la nôtre sur la Sarthe. Mais il y a des liens, et notamment dans le travail de prévention. On va un petit peu improviser avec... Donc moi, je suis le docteur Guillouillet, je suis psychiatre coordonnateur de la Maison des ados de la Sarthe. Et puis Vanessa Lalo, on ne travaille pas ensemble, mais on a décidé de relever le défi de faire une présentation commune. Donc, un peu d'indulgence s'il y a quelques couacs. Le but est quand même de vous présenter un peu en live ce qu'on est en train de mettre en place sur la Sarthe et dans d'autres départements en lien avec la CAF, les promeneurs du net. Nous sommes dans cette première période de recrutement des promeneurs du net. On va y venir dans la présentation. Et on veut vous présenter... là où sont de nombreuses heures les adolescents, où on peut les rejoindre, et notamment les plus en difficulté, ceux qui sont en repli. Donc on va vous présenter les promeneurs du net et une action conjointe avec une maison des ados.
Bonjour à tous, moi je suis Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques et des promeneurs du net. Les promeneurs du net, ça existe depuis 2012 en France. Ça a été mis en place par la CAF de la Manche initialement, et ça a ensuite fait des petits sur tout le territoire national. Donc là, on est sur 92 départements qui partent sur la démarche de la présence éducative sur Internet. C'est important de rappeler aussi ce contexte-là, puisqu'on est en train de faire évoluer aussi les politiques jeunesse, avec comme but d'intégrer les pratiques numériques dans les missions habituelles des professionnels qui accompagnent la jeunesse tout court, donc de manière totalement pluridisciplinaire. Donc moi, je travaille au niveau du comité national avec la CAF nationale sur le déploiement national des promeneurs du net. Et je m'intéresse à tout ce qui a trait au numérique sérieux. Moi, je pars du principe que le numérique est relativement partout et qu'il ne tient qu'à nous de s'en servir de ces outils numériques pour faire de la continuité éducative, de la continuité en termes d'accès aux soins, ou de proposer d'autres types de modalités d'accompagnement grâce à ces nouveaux outils. Alors, sur la partie des pratiques des jeunes, on va passer assez rapidement ces chiffres-là. Si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer ce document, bien entendu. Sinon, les deux diapos qui vont suivre là sont issus de l'étude Ipsos Junior Connect. Tous les ans, ils font une étude avec les statistiques de consommation des jeunes par tranche d'âge, par type de thématique en termes de pratiques. Alors là, on a les chiffres tout à gauche des 1-6 ans, qui sont à 4h37 d'Internet par semaine. Les 7-12 ans, ils sont à 6h10 d'Internet par semaine. Et les 13-19 ans sont à 15h11. Alors moi, je pense qu'ils ont menti quand même, les jeunes, parce que 15h11, ça voudrait dire qu'ils sont à peine 2 heures par jour sur Internet, sachant qu'aujourd'hui, on leur demande d'aller sur Wikipédia faire leur devoir. Je ne suis pas sûre que ce soit entièrement cohérent. Mais je crois que c'est intéressant d'avoir quand même une base... pour savoir quand même que les jeunes sont relativement connectés et présents sur Internet, et nous aider aussi à réfléchir à ces différents indicateurs, le temps d'activité qui se déplace d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet, mais qu'est-ce qui se passe sur Internet? Avec qui ils sont en lien? Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont en train de perdre leur temps ou d'apprendre? Est-ce qu'ils font des projets citoyens? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de se construire? C'est ça aussi les questions. C'est plus, à mon sens, la qualité, le contenu, le type de relation, éventuellement le type de construction mise en place, que peut-être la quantité sur laquelle aujourd'hui on passe beaucoup de temps à discuter par rapport aux excès, aux addictions, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux sous-jacents à ces différentes pratiques, et pas forcément le temps qui sera passé, mais vraiment, est-ce que c'est au service de quelque chose? Est-ce que c'est au service d'un développement? Ou est-ce que ça vient renforcer éventuellement une maladie mentale?
Pour faire le lien quand même avec ce qui vient d'être dit précédemment, un adolescent qui passe 10-12 heures sur Internet ou devant un jeu vidéo parce qu'il est face à un vide qui est insupportable est un jeune pour lequel il faut se poser la question de signes précoces, infracliniques, d'un mode d'entrée dans une schizophrénie. À ce titre, je n'ai jamais vu, depuis que je suis en maison des ados, des ados aussi précocement qui développent des signes de schizophrénie véritable, hein, c'est-à-dire avec une évolution auparavant, en CMP où je travaillais, je ne les voyais pas aussi précocement. Et une des conséquences, comme Mme Krebs le disait il y a quelques instants, c'est que l'alliance est beaucoup plus facile à faire à ce stade.
Sur la deuxième diapo, avec les statistiques de consommation des réseaux sociaux des jeunes, c'est intéressant de voir qu'en majorité, les jeunes sont quand même sur YouTube. YouTube, c'est un réseau social qu'on oublie de citer comme un réseau social sur lequel on passe beaucoup de temps, sur lequel il se passe beaucoup de choses. Entre la mise en scène, la création des propres contenus des jeunes et entre tout ce qu'ils consomment de contenus plus ou moins compliqués ou plus ou moins bons pour eux, il faut attention à avoir un point de vigilance aussi sur tout ce qui se passe sur YouTube et sur tous ces réseaux. Facebook, ils sont extrêmement connectés aussi. Snapchat, c'est le nouveau réseau sur lequel les jeunes sont énormément connectés, avec des contenus qui sont éphémères, qui disparaissent, avec tout ce que ça peut contenir, hein, comme à la fois complications d'un côté éventuel lié à du harcèlement ou à des choses plus ou moins compliquées dans la vie d'un ado, comme ça peut aussi participer vraiment à l'évolution de la construction d'un jeune, sortir de l'isolement, réussir à créer sa propre identité à la fois numérique et réelle, se faire appuyer par ses pairs, appartenir à des communautés. Enfin, les réseaux sociaux, c'est aussi bien des risques que des potentialités. Et du coup, c'est à nous, à chaque fois, je pense, d'interroger vraiment les pratiques des jeunes pour pouvoir y répondre aussi au plus près de leur fonctionnement, de leur réalité quotidienne. Et ils expriment énormément de choses sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là aussi l'intérêt de pouvoir faire du lien sur les outils où ils sont et les territoires...
Si vous me permettez, je ne suis pas sûr que les personnes voient dans le fond de la salle. Donc, c'est 79% à gauche pour YouTube et 77% pour Facebook.
Voilà. On peut baisser la lumière, non ?
Je ne crois pas.
En sachant que ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a quasiment un an. Ce qui est important, je crois, peut-être à relever sur ces chiffres-là, c'est qu'il y a quand même toujours 20% des jeunes de 13-19 ans qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de smartphone. Et donc c'est intéressant à la fois de dire attention, ils sont beaucoup sur les réseaux, donc allons-y aussi, faisons quelque chose avec ça. Et de l'autre côté, ne laissons pas tomber les gamins qui ne sont pas connectés et ne pensons pas non plus qu'il faut absolument mettre tous nos œufs dans le même panier qui serait un territoire numérique unique. Voilà, je crois que c'est important aussi de prendre la diversité aussi des jeunes en considération.
Une réflexion d'une ado, depuis que ma mère est sur Facebook, j'ai fermé mon compte. Hein ? Donc ça évolue aussi avec le temps. Les collégiens aujourd'hui sont majoritairement plus sur Snapchat et Instagram, alors que des 20-25 ans sont sur Twitter et Facebook. Donc ça évolue de façon connectée avec la réalité aussi.
Pardon ? Les vieux sont sur Facebook.
Bah oui, c'est toujours en retard.
C'est leur territoire d'intimité aussi, ce qu'on se disait, on n'en a pas parlé.
Oui, les ados, vous savez bien, ont besoin de se créer des espaces qui leur sont propres. Et la rue numérique est un espace, les réseaux sociaux sont des espaces qui s'approprient avec une régulation, une autorégulation. Il y a des travaux qui ont été faits par... Claire Bellet à Lausanne, qui est une sociologue, qui a montré que dans un groupe sur Facebook, il y avait une autorégulation beaucoup plus importante que l'on pouvait le penser. Mais c'est un espace dont les adolescents sont aussi friands parce qu'ils y sont propres, ils leur sont propres. Moi, de plus en plus... un adolescent qui n'est pas connecté est un adolescent. J'ai une petite lumière qui s'allume et la question de la veille, avec qui est-il en lien et comment est-il en lien avec ses pairs ? Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare.
Et à contrario, il y a une nouvelle mode de jeunes qui veulent prendre des 33-10 comme à mon époque. Lors de la sortie du téléphone portable, parce qu'ils ne veulent pas avoir de smartphone, ils ne veulent pas que leurs données soient vendues à des fins commerciales avec des lobbying, des plateformes type Facebook. Et du coup, on se retrouve aussi avec des nouveaux modèles de jeunes en train d'émerger, qui n'ont jamais touché un ordinateur pour certains, qui refusent que leurs parents leur achètent un portable parce qu'ils ne voudraient pas être surveillés avec un contrôle total et tout puissant de leurs parents. Et donc, je trouve que c'est très intéressant aussi d'interroger ça chez eux. Parce qu'ils sont très matures des fois, ils ne veulent pas de portable de leurs parents, voilà, ils ne veulent pas de réseaux sociaux, ils ne veulent pas être traqués. Finalement, certains s'en sortent très bien juste avec des SMS aussi. Ce qui vient poser cette multiplicité et diversité, encore une fois, de la jeunesse, je crois. Ils ne sont pas tous pareils. Et heureusement.
Nouveau territoire. Internet, un nouveau territoire. Donc, on vient d'en parler. C'est un territoire quand même extrêmement précieux en termes d'information sur lequel les adolescents étant présents, ou la question en tant que professionnel de prévention, où nous avons et quelle place prendre pour les rencontrer, et rencontrer notamment ceux qui sont coupés des réseaux sociaux dans la vraie vie. Et là, les promeneurs du net ont tout leur intérêt, donc on va y venir. C'est un lieu d'échange, un lieu de travail, et en tant que professionnel, quelle place prendre? Il y a un débat qui s'ouvre actuellement, parce que même si ça a été expérimenté il y a une dizaine d'années en Suède, puisque si ça se généralise actuellement en France, l'expérience a déjà été menée en Suède depuis à peu près 10 ans.
Oui, en Suède, en fait, c'était parti d'un constat un petit peu compliqué, sociétalement parlant, parce qu'il y avait beaucoup de montées de groupes néo-nazis qui inquiétaient énormément certaines associations de prévention spécialisées. Et les éducateurs de rue ont donc décidé d'aller investir le territoire de la rue numérique pour pouvoir continuer à accompagner ces mêmes jeunes qu'ils ne voyaient plus dans la rue tout court et continuer donc leur travail de rue, de maraude de rue, de réduction des risques, etc. Et donc il y a eu à peu près 100 000 jeunes qui ont été touchés par ce dispositif en Suède depuis à peu près 15 ans maintenant. Alors, je n'ai pas plus de statistiques en tête comme ça, mais c'est assez intéressant de voir quand même sur une seule association qui est autour de Stockholm, ce que ça a pu générer. Alors, malheureusement, chez eux, ça ne s'est jamais nationalisé. Ça a été une initiative propre à une association. Et donc, ils sont très contents que nous ayons pu mettre en place ça de manière bien plus importante. Et sachant que nous, on en discute aussi vraiment avec tous les partenaires français, avec tous les types d'acteurs qui pourraient accompagner la jeunesse. Donc c'est assez intéressant de voir que là, on va aussi avoir un angle européen à développer sur ce qu'est la nouvelle, enfin, ce que sont les nouvelles formes, pardon, d'accompagnement de la jeunesse sur tous les territoires.
En France, c'est la Manche qui a démarré cette expérience il y a 4 ans, qui ont essuyé un peu les plâtres. Et en termes de mise en place et de cadre d'intervention, on va y venir après. Ils nous ont quand même posé un certain nombre de repères pour pouvoir démarrer cette expérience. L'enjeu est tout simple, c'est d'être présent là où ils sont présents. Il y a eu quelques années, il y avait les éducateurs de rue. L'objectif est d'être dans une présence, avoir une présence numérique, avoir une présence éducative sur la rue numérique. Donc là où sont un certain nombre de jeunes, sur des territoires alors qui ne sont pas parlés d'une présence à l'échelle d'un département sur Internet, vous allez me dire, c'est complètement inadapté. Mais ça doit s'ancrer dans un réseau de professionnels localement pour pouvoir justement poser le cadre d'intervention et faire le lien avec les professionnels et en particulier les animateurs jeunesse qui sont en première ligne parmi les promeneurs du net.
Aussi les éducateurs, les acteurs de la prévention. Enfin, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui tout le champ du médico-social quand même qui commence aussi côté des infirmières, des psychologues, aussi, qui commencent à aller investir ces champs-là autrement que simplement dans de l'animation. On avait au début beaucoup d'animateurs d'espaces publics numériques ou d'animateurs multimédia parce qu'on avait l'impression qu'il fallait avoir des connaissances techniques assez complexes. Et plus on avance et plus on se rend compte que finalement, ce qui est le plus complexe, c'est sa propre compétence, sa propre mission, son propre champ d'intervention et comment on va pouvoir mêler ça finalement avec effectivement une présence en continuité de ses pratiques habituelles. Hein, c'est surtout ça, je crois, qui est important. C'est de se dire que là, on a l'opportunité d'être là où sont les jeunes, d'assurer une présence pour être disponible, se faire bien identifier si jamais il y avait besoin d'une sollicitation et en même temps faire un gros travail d'aller vers qui, vous tient à cœur.
Aller vers, dans un premier temps, en Sarthe, on a ouvert la maison des ados en 2010. Et en 2016, nous nous sommes rendus compte qu'on avait triplé en 6 ans le nombre d'ados reçus à la maison des ados, mais qu'il y en avait un certain nombre qui ne venaient pas vers nous. Et lorsque on a entendu parler de ce projet de promeneurs du net soutenu par la CAF, il nous est paru intéressant dans ce mouvement d'aller vers, à la rencontre des ados qui ne viennent pas vers nous, et en particulier ceux qui sont en difficulté dans les relations, de pouvoir adhérer à ce nouveau mode d'aller vers. Et le premier bénéfice, d'ailleurs, a été de créer en Sarthe un maillage avec les animateurs jeunesse qui travaillent déjà avec Internet. Mais nous nous sommes rendus compte que ce sont des professionnels qui ont parfois une formation de base importante du côté de l'animation, mais du côté du repérage et de la gestion de difficultés, soit de comportement, soit de difficultés relationnelles avec certains ados, ils n'avaient pas grand-chose. Donc le premier bénéfice de ce travail, c'est de créer un réseau supplémentaire avec d'autres professionnels en contact avec des adolescents et puis de participer à un temps de formation pour une montée en compétences. Donc c'est augmenter les liens avec des professionnels pour aller vers et être en lien avec ceux qui sont dans un mouvement de repli.
Puis maintenir le lien aussi. On parle de l'aller vers, donc avec la possibilité de se faire identifier par le plus grand nombre de jeunes et avoir la possibilité, comme dans les démarches de maraude de rue, d'aller trouver des jeunes peut-être un peu plus en difficulté qui ne viendraient pas non plus dans les structures. Et il y a vraiment la question du maintien du lien aussi qui est très importante, puisque beaucoup de jeunes, pour des raisons d'accès, de mobilité, dans les zones rurales, il n'y a pas forcément des bus toute la journée. Du coup, aller se rendre dans les institutions sur les horaires d'ouverture, c'est pas toujours facile. Quand on a des problématiques spécifiques adolescentes, c'est pas toujours facile de se confronter à un professionnel. Et ils ont tendance à aller chercher sur Doctissimo les réponses. C'est Google, notre ami aujourd'hui. Du coup, pourquoi aller voir un professionnel et aller faire des heures de bus alors qu'on a la réponse dans sa poche sur Internet? Et donc il y a aussi vraiment tout ce travail d'être disponible pour des jeunes en assurant une présence sur différents territoires. C'est aussi avoir la possibilité de se faire questionner sur tout un tas de sujets qui ne vont pas forcément passer par Internet et des réponses un peu bizarres souvent. Doctissimo, c'est 4 pages de n'importe quoi avant d'avoir quand même une bonne réponse scientifiquement valable. Et maintenir le lien, c'est aussi très très important dans plein de cas, parce que c'est aussi s'assurer de la continuité d'un suivi, d'avoir un accompagnement au long cours, ou en tout cas d'avoir la possibilité d'être disponible. Je crois que c'est très très important d'assurer cette disponibilité-là. Et puis surtout, ce qui nous importe dans Promeneurs du Net, c'est pas tant d'aller se dématérialiser plutôt que d'aller renforcer le présentiel. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que là, il ne faudrait pas que vous pensiez qu'on va tous devenir des petits pixels sur Internet. Je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que les jeunes réidentifient les professionnels et de nouveau envie de faire confiance aussi aux institutions et de nouveau envie de se sentir peut-être suffisamment interrogés ou suffisamment à leur place dans les institutions pour avoir des activités aussi peut-être qui leur conviennent ou qui soient adaptés à leur nouvelle problématique et leur nouvelle réalité. Et du coup, on vient renforcer à la fois le travail de réseau réel entre professionnels qui n'ont plus le temps de se voir ou de se parler ou de s'identifier entre eux non plus. Et en même temps, on va réaugmenter la fréquentation des structures grâce à ça aussi, parce qu'on devient aussi plus attractif. Alors, je ne sais pas si le mot, c'est un peu marketing, mais je crois aussi qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, de redonner envie en tout cas aux jeunes de venir voir des professionnels.
Il y a quelque chose de générationnel. Les animateurs jeunesse m'ont dit qu'aujourd'hui, s'ils proposent un temps, une réunion pour organiser un séjour, ils ont peu de monde. S'ils postent sur Facebook une rencontre virtuelle avec un échange pour organiser un temps en présence, eh bien, ils ont beaucoup plus de monde ou beaucoup plus de raisons, de réponses, et ils fédèrent en amont pour organiser. Et donc là, on est dans un mode de mise en lien, de co-organisation ou de participation qui est vraiment générationnel par un moyen de communication dont cette génération est née avec.
Alors, d'un côté, effectivement, les jeunes ont la flemme, on va dire, hein, d'aller aussi en présentiel quelque part. Et de l'autre côté, il y a vraiment cette nouvelle modalité de communication des jeunes qui se passe en collaboration. Et plus on avance là, dans ces nouvelles générations, plus on voit que finalement la relation frontale, elle est compliquée. Ils la fuient complètement, ils veulent être entre pairs, ils veulent être en groupe, ils veulent parler de leurs problèmes en groupe, ils créent des groupes en ligne pour parler entre eux de leurs problèmes, ils ne veulent pas forcément d'adultes dessus. Et c'est là aussi où on a un champ vraiment à aller investir pour proposer éventuellement de la modération, de l'accompagnement, en tout cas être là aussi, pas forcément en tant que témoin ou régulateur, entre guillemets, hein, forcément, mais en tout cas, pouvoir aussi être sollicité sur ce type d'espace, ça marche très très bien, effectivement. Aujourd'hui, les sorties scolaires ou les colonies, etc., s'organisent aujourd'hui par des groupes de jeunes sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Effectivement, faire ce type de travail-là en présentiel ne fonctionne quasiment plus. Et là, on a une mise en réseau de jeunes qui se sentent aussi valorisés, qui ont l'impression d'avoir de nouvelles compétences. Et il y a un vrai travail de positiver la jeunesse aussi à travers ce qu'ils peuvent nous proposer en co-construction, vraiment avec leur centre d'intérêt.
En ce qui concerne du côté du soin, il y a un objectif de prévention, de réduction des risques, avec une sensibilisation. On a quand même, à travers les questions de radicalisation, par exemple, on s'est rendu compte que du côté des jeunes adolescentes de 12-13 ans, il y avait une quasi-errance numérique. Et puis, à un moment donné, elles tombent sur des sites djihadistes les plus accrocheurs et peuvent rentrer en contact, établir des relations. Et donc, il y a, à travers une présence éducative sur Internet, soit en présentiel, soit en étant soi-même bien identifié, un travail de sensibilisation et de prévention au risque de lien, au risque de mise en lien avec des hommes, des femmes qui sont identifiés par des pseudonymes, par des avatars. Je cite ça parce que tout professionnel des promeneurs du net a une carte d'identité clairement définie, c'est-à-dire il est hors de question pour un promeneur du net d'avoir un avatar sur sa carte d'identité, par exemple. Ça paraît comme ça évident. Hein.
Comment ? Carte d'identité numérique.
Carte d'identité numérique, oui, bien sûr. Mais ça fait partie du cadre pour éviter tous les problèmes qui a pu exister dans d'autres lieux. La sensibilisation et la prévention va jusqu'au repérage des ados. On en a parlé tout à l'heure au risque de désocialisation et de marginalisation. Et en particulier, là, il y a chez les garçons qui passent 10-12 heures sur un jeu vidéo avec aucun contact dans la vraie vie. Là, il y a soit une fuite de vide, soit... Enfin, c'est important de pouvoir rentrer en relation pour pouvoir évaluer pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps sur un jeu vidéo. Je me souviens d'un schizophrène qui, clairement, avec une capacité d'attention très étonnante, passant 15-16 heures par jour à certains moments, c'était clairement une fuite face à un vide et des angoisses. Je ne pense pas quand je suis en train de jouer.
Donc, c'est pas forcément toujours le cas non plus. Il y a aussi des professionnels du jeu vidéo, il y a aussi des gens qui vont bien et qui jouent beaucoup. Enfin,
il y a une différence aussi, importante. Hein. Moi, je ne joue pas et vous jouez.
Je vois aussi beaucoup de gens qui vont très bien et qui jouent beaucoup, mais c'est souvent transitoire aussi. Du coup, oui. Il y a des gens qui vont très mal et qui vont s'enfermer dans tout ça, et il y a des gens aussi qui...
Il vous reste 7 minutes.
7 minutes. Les idées de suicide qui sont évoquées par certains sur les réseaux sociaux. Donc, comment y répondre et comment... Donc, ça, c'est dans le cadre de la formation et puis du travail de régulation et de supervision avec les promeneurs du net. Il y a un travail où, en tant que professionnels de santé, nous pouvons apporter un discernement, une aide au jugement, à l'évaluation et puis faciliter une orientation lorsque c'est nécessaire vers un accès aux soins. Il y a, la semaine dernière, on a organisé en Sarthe un colloque sur adolescence et harcèlement. Et pour la première fois, il y avait un certain nombre d'animateurs jeunesse qui étaient présents. Donc l'enjeu est de pouvoir permettre à d'autres professionnels qui n'étaient pas forcément dans le réseau jusqu'ici de pouvoir être alertés et d'apprendre comment gérer une situation, prendre la question du harcèlement et de l'amplification sur les réseaux sociaux, comment est-ce que des promeneurs du net peuvent intervenir pour aider à ce qu'une situation de harcèlement n'aboutisse pas à un décrochage scolaire et puisse permettre que ça cesse.
Peut-être que je résumerai juste cette prévention numérique par le fait qu'on va donc pouvoir faire énormément de repérages différents. Moi, je fais très attention pour les histoires de radicalisation. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on pense que ça va être de la surveillance d'Internet et qu'on va être là pour aller être partout où vont être les jeunes et pouvoir tout surveiller. On ne va pas avoir un rôle non plus d'aller signaler tout ce qui se passe en ligne. Par contre, le fait d'être présent va automatiquement intrinsèquement réduire des risques, puisqu'il y a des choses que l'on va pouvoir observer, sur lesquelles on pourra agir avec un dépistage justement plus précoce de certaines situations qui vont nous alerter assez facilement. Il y a plein de petits indicateurs finalement qui vont pouvoir nous permettre de repérer soit des problématiques de santé mentale ou d'isolement ou de décrochage, ou en tout cas de pouvoir essayer de raccrocher à chaque fois des wagons comme on peut via différents types de profils de professionnels, et notamment les animateurs qui aujourd'hui ont un rôle clé à jouer aussi là-dedans, parce qu'ils sont justement pas forcément dans de la médicalisation, mais qu'ils n'ont pas forcément toujours non plus toutes les pistes pour bien prendre en charge certaines pathologies ou d'errances numériques que l'on pourrait observer. Donc il y a un travail de co-construction aussi professionnelle à faire sur notre présence sur ces territoires, d'apprendre à repérer aussi de manière plus fine tout ça.
La présence éducative sur Internet se constitue ou s'inscrit dans la continuité des missions professionnelles. Nous restons, en ce qui me concerne, médecins, structure d'une maison des ados, et les animateurs jeunesse sont dans leur réseau jeunesse. La connexion entre les deux est à créer, mais chacun reste avec son identité professionnelle et clairement exprimée. Ça se situe donc dans un travail d'équipe d'un réseau professionnel. Un promeneur du net n'est pas isolé. Et donc, face à une difficulté, le cadre, déjà, est posé de façon claire avec chaque institution dont est issu, service dont est issu le professionnel, et puis avec un temps d'échange, de reprise de pratiques et de régulation en équipe pour ne pas laisser, évidemment, un professionnel isolé face à un message qui serait compliqué à traiter. Le premier bénéfice est, encore une fois, d'augmenter, d'élargir le réseau des professionnels en contact avec les adolescents. Le cadre numérique, la carte d'identité.
Parce que ce qui est vraiment important par rapport au travail en réseau, au travail en équipe, c'est vraiment bien de structurer la manière dont on va être présent en ligne, la manière dont on va pouvoir justement bénéficier d'une meilleure prise en charge des jeunes avec tous ces réseaux professionnels. L'important, c'est de bien fixer le cadre du bureau numérique. On ouvre et on ferme son bureau numérique. Comme on rentre et on sort symboliquement d'une pièce, il y a un vrai travail à faire de ritualisation, on va dire, de sa présence en ligne d'une manière extrêmement cohérente avec son institution. Le plus important, ça va être vraiment travailler en institution la fonction de chacun, le périmètre d'intervention, la manière dont on va avancer en ligne à visage découvert, avec sa photo individuelle, parce qu'on n'est pas un masque. Quand on vient dans le bureau d'un professionnel, il n'est pas masqué ou sous forme d'avatar. Donc on tient absolument à ce que les choses soient assez claires dans le descriptif des missions, que les professionnels présents en ligne soient vraiment précis dans l'explication des modalités d'interaction proposées, le rythme éventuellement, les plateformes sur lesquelles on va pouvoir être disponible. En tout cas, favoriser vraiment l'identification des professionnels sans aller mettre en avant la présence éducative sur Internet, mais plutôt mettre en avant le professionnel qui est éducateur, infirmier, médecin, voilà, qui a un rôle bien précis et bien, bien cadré, et surtout que ce soit travaillé le plus possible avec la hiérarchie en équipe. Il peut y avoir un professionnel qui évolue en ligne et pas les autres. Il va falloir absolument, en équipe, parler de tous les cas rencontrés, puisque ce sont des jeunes qui s'expriment autrement, avec des indicateurs complémentaires à ce que l'on a d'habitude en présentiel. On peut voir des jeunes qui montrent quelque chose de totalement différent, soit complètement isolés, renfermés en ligne, à l'inverse de ce que l'on pourrait observer dans les institutions, ou à l'inverse, avoir des jeunes qui sont très forts de proposition, qui sont très leaders, qui font des choses formidables en ligne, et qui, dans le reste du temps, dans les bureaux, regardent leurs pieds. Et on va pouvoir, en fait, avoir comme ça plein de facettes d'autres par des identités des jeunes, et travailler aussi plein de nouvelles modalités d'accompagnement à travers tout ça. Et je crois qu'il faut absolument que ça s'inscrive dans quelque chose d'institutionnellement bien travaillé, avec voilà, des ouvertures, fermetures, cadres, et surtout le périmètre d'intervention, parce qu'on parlait de géographie. Internet, c'est illimité, tout est illimité, on a un clic les uns des autres. Et malheureusement, quand on est dans une prise en charge santé, ben, on est sectorisé, on a de la géographie, il faut faire attention aussi à ne pas forcément vouloir aller sauver la veuve et l'orpheline partout sur Internet et se retrouver à vouloir s'inventer un nouveau métier qui ne serait pas le sien. D'où le fait que voilà, parler de tout ça en équipe, c'est extrêmement important, mettre du cadre. Et vous, en tant que directeur
oui, Amado... Dans la Sarthe, on est parti sur 2 heures par semaine et qui ne sont pas de la communication instantanée. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont postés, et ce n'est pas une présence entre 22h et 24h, par exemple, au minuit. C'est la possibilité de répondre à un autre moment de façon différée. On n'est pas dans du chat instantané.
Bien, merci pour cette présentation. Je pense qu'elle va susciter quelques questions, évidemment.